Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corsica International.
Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'émission Parlez-moi de vous. Dans cette émission, vous le savez, on se présente et on se présente à vous tel que vous ne connaissiez pas la personne auparavant, peut-être, sur RCI, Radio Corsica International. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir un nouveau venu à Bastia, mais qui connaît l'île à la perfection. Il est médecin, professeur responsable du département d'anesthésie et réanimation à l'hôpital de Bastia. Gilles Donneur est avec nous. Bonjour Gilles.
Bonjour Evelyne.
Très heureuse de vous accueillir. C'est une fonction que vous occupez depuis longtemps, mais récemment ici à Bastia. Pourquoi le choix de Bastia ?
D'abord c'est l'île, je connais l'île depuis près de 40 ans. J'ai une maison sur cette île et puis j'ai une partie de ma famille ici. Ma mère est d'origine italienne, ils ont immigré dans le sud de la Corse. Donc voilà, c'est une île que je connais. Et puis, mais les deux responsables du département d'anesthésie et de réanimation de Bastia sont deux de mes anciens assistants et qui un jour ont su que voilà, j'étais disponible. Ils m'ont appelé en disant « Patron, si tu viens avec nous, ce serait super ». Et donc je suis à Bastia.
Donc vous êtes à la maison ?
Donc je suis à la maison, quasiment à la maison.
On est très heureux en tous les cas de vous accueillir ici. Gilles, quel est votre parcours ? Parce que c'est un métier que vous connaissez à la perfection, vous avez eu de hautes responsabilités en région parisienne. Comment tout débute pour le professeur que vous êtes aujourd'hui en médecine ?
Comment ça commence ? Ça commence par un choix un peu difficile à l'internat, choisir entre deux spécialités, la pneumo et l'anesthésie réa. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir faire les deux, à la fois la pneumo et l'anesthésie réa. Donc, anesthésiste réanimateur dans les CHU parisiens, patron d'une grosse structure à la PHP et professeur à la faculté de médecine de Paris 12. Voilà mon cursus. Et une thématique de recherche un peu particulière, très, très étroite, mais très intense. Et puis une reconnaissance internationale dans ce domaine de recherche. Donc voilà, un parcours hospitalier, des responsabilités à chaque fois de plus en plus importantes. Et puis finalement, Bastia, où je retrouve mes anciens collègues.
Alors, quand vous arrivez, quel est le constat que vous faites quand vous arrivez dans cet hôpital qui est peut-être différent de celui que vous avez, de ceux que vous avez pratiqués ?
Alors d'abord, je voulais vous dire que l'hôpital est construit à un endroit qui est magnifique. On a une vue du bloc opératoire exceptionnel
sur la mer
et le lever de soleil sur les îles Toscane, c'est exceptionnel. J'ai fait la connaissance d'une équipe d'anesthésie réa incroyable. On a des praticiens qui sont durs à la tâche, on a des personnels médicaux et paramédicaux qui sont super intéressants, super sympas, et puis qui sont travailleurs. Et puis on a un hôpital qui est bien doté, qui a tout le matériel qu'on veut. Rien à envier à Paris, franchement. Et donc, voilà, c'est un hôpital qui est doté en matériel, qui nous permet de faire tout ce qu'on veut, qui est un réseau sur la Corse qui est intéressant. Et puis, avec des pathologies incroyables. C'est un hôpital qui est quasiment terminal. On reçoit tout ce qui ne va pas bien dans la plaine orientale. Donc, c'est varié. Beaucoup de patients graves, ce qui nous intéresse en anesthésie et réanimation. Et finalement, une équipe incroyable d'aides-soignants.
De professionnels.
De professionnels de santé non médecins. Le seul problème de Bastia, c'est qu'on n'est plus assez de médecins seniors pour faire tourner cette boutique. Et c'est pour ça que je suis venu, pour les aider à faire qu'en Corse, on ait des médecins qui viennent apprendre la médecine en Corse.
C'est ça, des médecins d'expérience.
Voilà. Et qu'ils puissent s'installer en Corse. Et donc, avoir des internes, des chefs de clinique et à la fin, avoir des praticiens qui auront fait leur cursus en partie à Bastia, qui reviendront s'installer à Bastia, et on ne sera plus dans cette situation où on manque de praticiens à Bastia, où on fait venir des collègues du continent. Et là, c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir faire venir quelques collègues avec moi. Et voilà, et quand le professeur Papazian viendra, et ben on va reconstruire une grosse équipe ici sur Bastia.
C'est ça, il y a un professeur supplémentaire qui arrive.
Voilà, il y a un collègue qui vient, qui est très sympa, qui m'a appelé Gilles. Alors, on se connaît depuis longtemps, hein. J'ai fait une partie de mes études à Marseille. Il m'a dit « Gilles, si tu veux encore, je viens avec toi et on va monter une sorte de place to be en anesthésie et réanimation. »
Et ce sera à Bastia. En Haute-Corse. Gilles, donc le constat que vous faites en arrivant, vous êtes là depuis combien de temps maintenant ?
Le 3 octobre.
Le 3 octobre. Donc en pleine période de Covid, l'hôpital est sous tension.
L'hôpital est sous tension et sérieusement sous tension. Alors avec des fluctuations, mais Il est sous tension. Il est sous tension parce que l'activité de prise en charge des Covid est intense. Elle nécessite un personnel qu'on a déplacé vers le Covid. On a enlevé du personnel de bloc opératoire pour faire fonctionner les Covid. Et donc, il y a une vraie tension parce que je suis persuadé que tes patients ne peuvent pas tous faire opérer et que beaucoup des personnels paramédicaux est redistribué sur les unités Covid. Alors voilà, donc il y a une grosse tension qui est liée à cette infection Covid. Avant le Covid, j'ai l'impression que la structure hospitalière de Bastia a été dimensionnée aux besoins de la Haute-Corse. Mais depuis le Covid, ça a été complètement déstabilisé. Le Covid accapare une grande partie.
Vous avez été obligé de ventiler, voilà. Oui.
Et donc, on est sous tension.
Oui. Ouais. Qui sont ces malades? Des Delta, des Omicron?
Alors, jusqu'au mois d'octobre, c'était plutôt les Delta. Maintenant, on a des Omicron. Tous ne sont pas typés. On va voir les résultats maintenant de type de variants. Mais c'est principalement des Delta et maintenant les Omicron.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Y mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros.
Vous êtes battu depuis le début, et je le sais, quand évidemment l'épidémie a commencé, vous êtes battu pour faire entendre qu'il fallait se faire vacciner. Où en est-on sur Bastia ?
Alors, ça, je trouve que... Alors, moi, je suis là depuis le mois d'octobre. Et on est en train d'analyser, et on a un DIM, un responsable de l'informatique médicale ici à Bastia, qui est magnifique. Il a gardé toutes les datas, et donc je vais pouvoir les exploiter, mais... On a une épidémiologie de l'infection à Covid qui a fluctué depuis 3 mois. Alors je n'ai vu que depuis 3 mois. Depuis 3 mois, on s'est aperçu qu'on était quasiment... Au début, on avait une fraction des patients qui étaient pas vaccinés. Progressivement, on a vu que les malades infectés qui étaient admis... Alors dans l'hôpital, il y a les urgences qui reçoivent tout le monde. Au-dessus de l'hôpital, il y a une unité... qui s'appelle l'oxygénorequérence, ils ont besoin d'oxygène. Et puis après, il y a des besoins de ventilation et d'oxygène. Et enfin, il y a la réanimation. Et donc, le métier actuellement, le travail à Bastia consiste pour le Covid à prendre des patients qui sont aux urgences, de les mettre dans les différentes unités, de les faire évoluer en fonction de leur pathologie. Au début, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène. Après, il faut les assister en les ventilant, plus de l'oxygène. Puis à la fin, ils vont en réanimation qu'on est obligé de les intuber. Ben, tout, c'est ce parcours-là qui nous accapare en ce moment sur l'hôpital de Bastia. Et on a vu qu'au début, alors j'ai fait un peu des stats un peu grossières, mais on a vu qu'au début, c'était quasiment, il y avait une partie des patients qui n'étaient pas vaccinés. Progressivement, on a eu de plus en plus de malades non vaccinés, comme une immense majorité des patients qui se dégradaient et qui allaient mal. Les autres partaient vivants de l'hôpital.
Donc les non vaccinés prennent plus de risques, évidemment.
Alors, je ne sais pas s'ils prennent plus de risques. Alors, ça dépendra aussi peut-être des variants, mais on a eu, jusqu'à il y a 15 jours, quasiment 100% des patients qui étaient en réanimation, c'est-à-dire qui avaient des besoins majeurs en oxygène et en ventilation, c'était des patients qui étaient non vaccinés. Non vaccinés. Et les formes les plus graves sont survenues chez les patients non vaccinés. Ça ne veut pas dire que les patients vaccinés ne font rien. Il y en a qui s'infectent, mais ils font rarement des formes graves. Je crois que sur l'ensemble des malades que j'ai vus en 3 mois, là, il n'y a qu'une femme qui avait un cycle vaccinal complet, qui a fait une forme grave, une seule. Et donc, l'immense majorité des formes graves qui nécessitent l'oxygénation, la ventilation et des fois l'intubation trachéale et le séjour en réanimation dans des conditions un peu difficiles, c'était les patients non vaccinés. Voilà. Les autres, alors on a une fraction des patients qui étaient des patients dont le vaccin n'était pas efficace parce qu'ils prenaient soit des traitements particuliers, des immunosuppresseurs, des corticoïdes. Ces patients avaient été vaccinés, avaient un cycle complet, mais le vaccin n'était pas efficace à cause des traitements qu'ils prenaient. Et puis les autres, c'est des patients qui avaient fait 2 vaccins, qui n'avaient pas fait la 3e injection et qui étaient truffés de comorbidités, les pauvres. Et bien ceux-là, ils ont fait des formes graves.
Vous disposez d'assez de lits en réanimation à Bastia ?
Alors, on travaille avec Ajaccio, Bastia et la EPACA. Et on a, vous n'êtes pas sans savoir, qu'on a transféré des patients
à Brest.
Voilà, à Brest. sur Marseille et sur Ajaccio. Les collègues d'Ajaccio ont joué le jeu et vraiment, ils nous ont aidés. Quand on avait plus de place, et bien, ils ont pris ces malades graves pour les prendre en charge. Et d'ailleurs, les patients reviennent de Brest,
oui,
vivants. C'est incroyable, oui, et c'est super.
Ça, c'est votre bonheur.
Ouais. Ouais. Ouais.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit que nous sommes en phase ascendante pour l'Omicron. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, c'est, je veux dire, si on regarde les chiffres d'infection...
Pour l'Omicron, hein ?
Pour l'Omicron. Les chiffres d'infection sont flagrants. On est en explosion d'Omicron, même dans les familles, on le voit. Tout le monde s'infecte.
Plus contagieux, mais moins létal.
Alors, est-ce qu'il est moins létal ? Je ne suis pas sûr. Parce que moi, j'ai remarqué que l'Omicron, sur des patients pas vaccinés, faisait comme le Delta. Il est aussi sournois et violent. Par contre, l'Omicron, quand il tombe sur des gens qui... Une population qui est vaccinée, qui même est... partiellement vaccinée, ben, il n'est plus capable d'avoir une activité aussi violente et aussi destructrice. Donc moi, je pense que Omicron, sur des patients pas vaccinés, il a à peu près la même toxicité, la même virulence et la même, il a le même comportement chez les gens pas vaccinés que le Delta. Par contre, il arrive sur une population qui a reçu un ou deux vaccins, ou tous les vaccins. Et donc, il entraîne moins d'hospitalisation en réanimation, moins de formes graves. Et donc, voilà, c'est l'avantage.
Donc, vous prêchez toujours pour la troisième dose ?
Oui, j'ai l'impression. Non, mais même maintenant, on va peut-être prêcher pour une autre dose. C'est pas la troisième, c'est la quatrième. J'ai l'impression qu'on se prépare à une quatrième dose ou quelque chose comme ça. Je suis pas épidémiologiste, mais j'ai l'impression qu'il faut maintenir un taux d'anticorps. Et ce taux d'anticorps, il permet aux patients de ne pas faire de formes graves.
Et l'immunité globale, l'immunité générale ?
Moi, je crois que l'immunité...
On est à 4 millions hein, de non-vaccinés. Hein.
4 millions de non-vaccinés, mais si vous prenez 4 millions de non-vaccinés qui s'infectent, parce qu'on va tous, à mon avis, s'infecter à Omicron, je crois, ou quelque chose comme ça.
Oui. 4 à vivre de... comme une grippe ?
Oui, vivre ça comme une sorte de grippe. Mais si on n'est pas vacciné, eh ben, j'ai peur que 4 millions, quand on sait qu'il y en a 1 pour 1000 qui va décéder de cela, de ces infections, ça va faire beaucoup de patients en réa, et c'est trop de patients en réa, donc on ne pourra pas supporter, si on n'est pas vacciné, ces patients qui vont aller en réa.
Comment donc, convaincre ceux qui sont réfractaires à la vaccination ?
Je ne sais pas, peut-être qu'ils viennent faire des stages en réanimation. Moi, ce que je leur propose... Alors, j'essaye plus de...
La pédagogie ?
Ce n'est pas la pédagogie, c'est l'éducation. Et l'éducation par l'épreuve, parce que là aussi, on a ici des fichiers à l'hôpital de Bastia. Hein. On a des fichiers avec les noms des patients, ce qui leur est arrivé. Ils sont vivants, ils sont sortis vivants. Et donc, c'est assez simple de démontrer que la lecture d'un fichier Excel, voilà, les gens sont morts, ils ne devraient pas mourir. Les gens ont survécu avec des séquelles, ils n'auraient pas dû avoir ça. Donc voilà, mais c'est difficile de faire entendre raison à des gens qui ne croient pas ou qui sont persuadés que ce que je raconte ou ce que nous racontons est faux ou faussé ou empreint de biais, je ne sais pas, financier ou je ne sais pas quoi. Donc c'est assez difficile à convaincre. Mais bon, nous, c'est simple. On a des fichiers qui sont ouverts. D'ailleurs, tout le monde peut les consulter ici à l'hôpital de Bastia. Vous aurez le nombre de patients admis pour Covid. Vous allez avoir le nombre parmi ces patients. Par exemple, je vais vous dire un chiffre, 16 000 patients ont été admis depuis le 2 février 2019. Eh ben, 16 000 patients ont été admis. Parmi ces 16 000 patients, il y en a 1 500 qui ont été hospitalisés dans l'unité Covid. Et puis voilà. Et puis on sait comme ça combien parmi ceux-là ont fait une forme grave et combien parmi les formes graves sont décédés. Donc on a des statistiques qui sont assez simples et faciles à vérifier. Donc c'est pas discutable. Et comment l'impact du vaccin a affecté cette mortalité et le fait que les patients font de moins en moins de formes graves quand ils sont vaccinés.
Il y a actuellement en réanimation des personnes en cas critique ?
Oui, bien sûr. Oui, on en avait jusqu'à vendredi dernier, on en avait 5 en réanimation et 9. Alors, tous ne sont plus... Alors, le problème aussi, des fois, c'est un peu le problème avec ce virus, c'est qu'on peut ne plus être positif ne plus être positif à la PCR et avoir encore les effets secondaires de l'infection et donc être en réanimation alors qu'on n'est plus positif. Donc, on a un certain nombre de patients. Alors, parce que la durée de la réanimation standard pour un patient Covid grave, c'est aux alentours de 15 jours. Et puis avant, il y a une phase où ils sont dans une unité d'oxygénodépendance. Ensuite, il y a la réanimation. Et puis après, il y a une période. Après cette réanimation, ils sont encore dans une unité de réanimation, mais ils ne sont plus infectants. Ils sont en train d'essayer de guérir de leur Covid. Et c'est difficile de dire, celui-là, il est sorti de la réanimation, mais il est toujours Covid. Il n'est plus Covid. Voilà, c'est... Mais on a en permanence, j'allais dire, entre... Là, on en avait 14 la semaine dernière, vendredi. Alors, j'ai l'impression que ça commence à baisser, parce que pour la première fois aujourd'hui, on a, dans l'unité d'oxygéno-requérance, on a 3 Covid sur 9 lits, et en réanimation, on a 3 malades sur 6 lits. Donc voilà, on commence à peut-être que j'espère.
Peut-être. Ouais. L'OMS vient de préciser que, normalement, au printemps, nous serions en fin de pandémie. Vous y croyez ?
J'ose y croire. J'ai l'impression que c'est vrai. Et je veux y croire parce que j'ai l'impression que ce modèle d'extinction d'un virus qui devient de moins en moins méchant, j'allais dire,
de plus virulent, en plus virulent,
oui. de plus en plus virulent.
Il essaye, c'est-à-dire
qu'un virus qui mute, c'est un virus qui est attaqué. C'est comme les bactéries. Il est attaqué et ses derniers retranchements, c'est d'être de plus en plus infectant. Et puis, malheureusement, on voit qu'il
sous des formes
moins,
plus.
Voilà. Il essaye de.
Moins attaquante.
Il est moins attaquant. Il est moins destructeur sur les patients, mais plus infectant. Voilà. Lui, son boulot, c'est d'infecter les gens. Et donc, les variants, c'est comme ça. Mais là, il tombe sur une population qui est vaccinée, donc qui a une sorte d'immunité mémoire,
ouais,
qui est toujours là. Et donc, voilà, il ne peut plus faire grand-chose.
Le rythme de son cœur s'aligne au stroboscope et bas.
Qu'est-ce que ça va changer? Le pass vaccinal est entré en vigueur. Qu'est-ce que ça change pour l'hôpital?
Alors, il y avait un vrai problème à l'hôpital. Des patients qui étaient infectés, qui étaient admis dans toutes les unités, c'était le fait de pouvoir voir des familles, le fait de pouvoir voir des parents, le fait d'avoir une sorte de vie sociale à l'hôpital qu'ils n'avaient plus. Actuellement, dans les hôpitaux, les familles, les visiteurs ne sont pas admis, ne sont admis que pour les patients agonisants, ici à Bastia, les patients qui sont en train d'agoniser. On accepte la famille. Alors, de temps en temps, on a des discussions avec les familles pour leur dire « Bon, venez, on fait des exceptions et tout ça, mais c'est pas facile à gérer.
Oui. »
Mais un patient à l'hôpital, normalement, il devrait voir sa famille, voir ses parents et pouvoir consulter. Et si on sort avec le pass vaccinal maintenant, on pourra, effectivement, les patients seront comme les autres patients de chirurgie, pourront voir leur famille, leurs parents et sortir de l'hôpital normalement. Quoi.
Parce que là, ils sont... la levée progressive des restrictions, vous êtes pour ?
Bah oui, oui, oui.
Ouais.
J'ai l'impression que l'humain, il a besoin de communiquer, il a besoin de parler, il a besoin de voir d'autres humains, de toucher, de machin. C'est ce qu'on ne pouvait pas faire, là. On est tous coincés, là. On a des masques, on est...
L'équipe, justement. Comment va cette équipe qui n'a cessé d'être présente au chevet des malades, le jour, la nuit, depuis maintenant des mois et des mois ?
On a des équipes qui sont fatiguées. Alors les médecins anesthésistes réanimateurs particulièrement, mais aussi les autres équipes. Les médecins anesthésistes réanimateurs qui sont en poste à Bastia sont fatigués parce qu'ils sont peu nombreux. On fait appel à des intérimaires et à des collègues qui viennent les aider, mais c'est difficile pour eux parce qu'ils enchaînent les gardes. Voilà, c'est un système qui a été effroyable pendant un moment. Les personnels ont été un peu usés, mais c'est bon. Voilà, on a de la chance d'avoir des malades qui vont bien, qui se dégradent, qu'on améliore, qui vont bien. Il y en a peu qui décèdent, hein, c'est 1 pour 1000. À Bastia, il y a 16 000 patients qui ont été admis depuis la crise Covid. Il y a 1% des patients qui sont décédés. Donc 1 pour 1000 patients décédés. Donc c'est très peu qui décèdent. On a appris à le soigner au fur et à mesure parce qu'on regarde la mortalité au cours du temps, sur 2 ans. Et on voit qu'on a appris à soigner ces patients et la mortalité est de plus en plus faible. Donc voilà, il y a des infections graves. Il y a des gens qui ont des séquelles, on n'en parle pas trop. Alors même s'il y a peu de décès, il y a des gens qui sont gravement atteints et qui vont développer... peuvent développer de la fibrose pulmonaire, ils peuvent avoir des Covid longs,
des conséquences
sur leur vie future et avoir des handicaps, hein, des fois parfois sévères.
Ils reviennent vous voir, ces malades, pour vous tenir au courant.
Magnifique.
Oui.
Magnifique. C'est super.
C'est une vraie vocation d'être professeur, d'être médecin, d'être soignant comme vous l'êtes tous là-bas.
Ouais, c'est incroyable, on a les patients qui reviennent voir. Moi, j'étais ami avec des patients. Certains sont morts. Et c'était un peu difficile.
Vous êtes très attaché aussi au relationnel.
Exactement. J'ai noué des relations avec les patients. Bon, j'étais un peu souvent dans l'unité de réanimation et dans l'unité Covid, mais on s'attache à nos patients. Et c'est des patients qui vont bien quasi. Alors, ils font un footing, ils font des fois un marathon, ils souffrent de la respiration. On est capable de parler avec eux, puis on se démène pour qu'ils aillent mieux, pour les aider, tout ça. Alors, il y en a certains il y en a certains qui réussissent à sortir de ça et puis qui nous rappellent, qui reviennent nous voir, avec qui on discute. Donc voilà, des vraies relations nouées à l'hôpital. Et puis moi, pendant longtemps, j'ai fait beaucoup d'administratifs, de recherche, de gestion de protocoles. J'étais pas en première ligne comme maintenant. Revenir à Bastia, ça m'a remis en première ligne et j'ai repris du plaisir à m'occuper des patients. C'est incroyable. Ouais.
Alors, il y a une nouvelle forme chez les jeunes aujourd'hui, nouvelle forme de soirée. Ils organisent des soirées Covid, c'est-à-dire que plutôt que de se faire vacciner, eh bien, on essaie d'attraper le Covid. Qu'est-ce qu'il y a à dire à cette jeunesse-là ?
C'est une sorte de roulette russe. Je me rappelle une patiente qui me disait, alors je lui demandais pourquoi elle n'était pas vaccinée. Elle m'a dit, écoutez, moi je ne crois pas au vaccin, je ne veux pas me vacciner. Elle était un peu, cette dame avait un Covid sévère. Et j'étais un peu excédé après une journée longue de travail. Elle m'appelle, êtes-vous vacciné ? Moi, je la soignais. Je lui dis, écoutez, madame, si j'étais pas vacciné,
je vous mettrais en danger.
Non, je ne pourrais pas vous soigner parce que à l'hôpital, on travaille pas si on n'est pas vacciné. Donc je lui dis, je pourrais pas vous soigner. Et elle m'a répondu, mais vous avez le droit de jouer à la roulette russe avec la vaccination. Et là, j'ai explosé. Je me suis pas contrôlé. Je lui dis, mais madame. C'est vous qui êtes en train de crever du virus, c'est pas moi. Elle était devant moi comme ça, c'est difficile. Bon, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais... Je veux dire, et là, après, elle s'est mise à pleurer. Alors, j'ai dit, excusez-moi.
Elle vous a fait sortir de vos gonds,
oui,
là.
Et voilà, on est un peu à bout. Mais moi, je dis que, voilà, il y a peu de risques, surtout, à mon avis, avec avec les variants qui vont arriver ou le virus actuel, pour les enfants, il y a peu de risques. Pour les adolescents, il y a peu de risques. Donc voilà, donc on a vu...
Il est en train de s'affaiblir.
Il est en train de s'affaiblir, oui. Et on voit que mais même chez des gens qui ont des comorbidités, j'ai des collègues qui viennent de s'infecter, qui ont des comorbidités, qui ont quasiment rien, qui n'ont pas grand-chose. Donc voilà, moi j'ai fait un Covid aussi très léger.
Étant vacciné ?
Non, sans être vacciné. Oui. Lors de la première vague, j'ai fait...
Et donc, avant le vaccin.
Avant le vaccin. Mais j'ai fait un Covid très léger. Alors il y a peut-être une immunité, génétique.
Oui.
Il y a sûrement un phénomène génétique. Il y a des gens...
Oui, on réagit tous différemment face à l'infection.
On découvre que certains gènes sont peut-être bloquants pour l'infection grave au Covid. Notamment les sécrétions d'interférons. L'interféron, c'est une substance qui permet de lutter contre les virus. L'homme la sécrète, on s'est aperçu qu'on n'est pas tous égaux devant ça. Et les familles à moins de sécrétion d'interférons, un interféron particulier, sont plus sensibles au Covid. Maintenant, on a des formes familiales, on s'est aperçu qu'on voyait mourir des familles entières avec des descendants qui avaient une filiation génétique. Et on a regardé chez eux s'ils avaient une différence et on retrouve des choses. Donc il y a des gens, il y a des familles à risque, il y a des familles pas à risque. Et donc, les enfants les jeunes qui se transmettent le Covid. Moi, j'ai un fils qui m'a dit on a tous attrapé le Covid, c'est bien, on va avoir le pass sanitaire.
Voilà,
exactement.
C'est pour ça,
donc, ouais. ça a été son soulagement. Mais jamais il a parlé de la gravité de sa maladie. Il m'a dit non, on était un peu malade, on a eu la grippe. Et puis voilà, mais on a tous le pass sanitaire.
On l'a pour 6 mois.
Voilà, 6 mois, on est tranquille, on peut sortir, on peut retourner boire des bières, on peut s'amuser avec les copains et les copines.
Sì,
Vous, les équipes, les médecins, vous avez vécu des moments terribles depuis tous ces mois, mais est-ce qu'il vous arrive de vous détendre, de vous retrouver pour les bonnes nouvelles, de vous reposer, de voilà, comment prendre un peu de recul quand on est au milieu de l'arène ?
Au milieu de l'arène, eh ben, il faut soit sortir de l'arène, soit prendre ce qu'il y a de bon dans l'arène, c'est de voir les patients sortir. C'est incroyable.
C'est le booster.
C'est la qualité de la survie des patients. Et on s'investit beaucoup dans les patients et de les voir sortir de la réanimation alors qu'ils ont été dans des états catastrophiques avec des poumons bouffés par le Covid. Et puis les voir sortir en se disant, putain, on les a sortis. Ils sortent. C'est notre récompense.
C'est votre récompense. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme projet, Gilles Donneur, pour Bastia, pour l'hôpital, pour le service réanimation ? Qu'est-ce que vous espérez en 2022 ?
J'espère la venue du professeur Papazian de Marseille. J'espère qu'on va pouvoir avoir des internes, parce que nous n'avons pas d'internes. J'espère qu'on va pouvoir, en ayant des internes, former des praticiens qui resteront à Bastia. Et si on a tout ça, c'est-à-dire des internes, alors on va voir le professeur Papazian qui est spécialiste mondial dans un domaine de la réanimation. Moi, je suis plutôt spécialiste en anesthésie-réanimation. Donc on va se compléter pour la formation des internes. On est en train de monter des dossiers au niveau de la région PACA pour qu'on soit centre d'accueil des internes. Et oui. Si on est centre d'accueil des internes, on va fabriquer des professionnels de santé. Et entre travailler à Paris et travailler à Bastia, oui. Il n'y a pas photo. Un jour, ils reviendront travailler avec nous et on fera le plein de médecins anesthésistes réanimateurs. Et donc, ce sera la belle vie à Bastia.
On parle d'un médicament qui pourrait demain venir nous sauver du Covid et de toutes les formes de variants.
Pour l'instant, non. Il y a des tests en cours. On est en train de. On a appris à soigner le Covid. Regardez, sur 1000 Covid.
On le connaît aujourd'hui.
On en a un qui va mourir. Donc, un millième, c'est un risque faible en termes de. Mais ceci dit, quand on regarde un peu les comorbidités, c'est toujours les mêmes types de patients qui vont poser des problèmes. Toujours les mêmes types de patients. Il y a des gens qui ont des comorbidités ciblées. Et on sait pourquoi le fait d'avoir ces comorbidités, ça favorise la tâche du Covid. De ce virus-là. Et donc, voilà, si on pouvait... Alors, on a des immunomodulateurs aussi.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est des produits qui, dans certaines formes de Covid, permettent à des patients de... Alors, je dis d'être sauvés, je ne suis même pas sûr de ce que je te dis. On a des produits maintenant qui permettent de limiter les phénomènes inflammatoires, les lésions pulmonaires, dans des formes très inflammatoires. Et on donne ces médicaments systématiquement dans les formes graves, avec des associés à des phénomènes inflammatoires puissants. Et on a l'impression qu'on voit ces patients guérir plus vite grâce à ces nouveaux médicaments. Donc voilà. Mais on a appris à soigner le Covid. Il y a eu des études magnifiques. Ça a été un booster de connaissances, de publications incroyables, le Covid. Et on soigne mieux nos malades. Et je suis sûr que si on a quelques patients qui viennent avec des pathologies d'antan, qui ne sont pas le Covid. Et on se dit... On les traite et on sait les traiter d'emblée parce qu'on n'a plus le doute. On n'a plus de doute sur le fait que Covid, il était là. Il nous a appris à soigner mieux les malades. Maintenant, on soigne bien les autres.
Gilles Donneur, merci infiniment pour ce que vous faites à l'hôpital de Bastia désormais, pour toutes les équipes qui vous entourent. Merci pour ceux qui vont venir vous rejoindre. J'espère que votre appel sera entendu, qu'il y aura des demandes pour pouvoir vous accompagner, vous aider et continuer à faire ce que vous faites sur votre belle carrière. Merci infiniment.
Merci Evelyne.
À très bientôt.
Ça me fait très plaisir.
Et une belle année 2022. Merci, c'est gentil.
Parlez-moi de vous, une émission d'Evelyne Adam sur Radio Corse International. Retrouvez cette émission en direct, en podcast et en vidéo sur le site de Radio Corse International.